et que nous n'avons pas à en douter.
Amen.
Merci que par ton Saint-Esprit, tu brûles, Seigneur, en nous tout ce qui est mauvais. Tu brûles tout ce qui est le doute, le mensonge, l'intimidation, Seigneur, mais que tu nous donnes le zèle, la force, la fierté, le courage, Seigneur, de dire que nous te connaissons, que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, parce qu'il est notre Sauveur, et qu'il est notre Seigneur dans notre vie. Amen.
Amen. Amen. Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse, et particulièrement ce jour un peu spécial de la Pentecôte où Dieu déverse son Saint-Esprit. Alors j'avais demandé à un frère de prier, mais il l'a déjà fait et puis ça m'a encouragé. Tout ce qu'a dit Jean-Pierre dans sa prière était exactement ce que le Saint-Esprit m'a demandé de vous partager ce matin. Alors, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais si vous l'avez écouté, vous avez à peu près tout ce que Dieu a mis sur mon cœur. Mais voici ce rôle extraordinaire du Saint-Esprit. C'est lui qui agit dans son Église. C'est ce qu'on voulait revoir ce matin. Et comme nous célébrons cette puissance venue sur les apôtres promises par Jésus-Christ, nous allons relire le passage de Acte 2 où nous voyons comment cette puissance est déversée. Nous allons donc lire Acte 2, versets 1 à 11. Acte 2, versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem, en ces jours, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dire dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? » Jusque-là, la lecture. J'ai juste reprié. Seigneur, merci de nous avoir laissé ta parole. Merci d'avoir eu des témoins qui ont écrit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, afin que nous puissions les méditer. Seigneur, que tu nous inspires toi-même par ton Saint-Esprit, que tu ouvres nos cœurs, non pas ce que je vais dire, mais ce que chacun va comprendre ce matin de ce que tu veux dire, de ce que tu as voulu laisser comme témoignage aux hommes et aux femmes, afin que nous grandissions toujours plus avec toi pour la vie éternelle. Amen. Alors j'ai intitulé cette prédication « La Pentecôte, dire les merveilles de Dieu ». Et pour bien comprendre ce passage du livre des Actes des Apôtres, je vous propose, même si vous le connaissez déjà, un bref rappel de ce qu'est la Pentecôte, ou plutôt aussi de ce qu'était la Pentecôte du temps des apôtres. Car, comme on le voit, ils étaient réunis à Jérusalem, Mais il y avait aussi, vous l'avez vu, des juifs pieux de toutes les régions des provinces alentours qui sont venus. C'est parce qu'ils venaient célébrer une fête juive très importante, qui reste l'une des deux grandes fêtes juives, la fête de Shavuot. Et cette fête, il se situe sur le calendrier juif 50 jours après la Pâque. Et Pâque, la fête de Pâques, c'est la Pessa. Et ce nom a été traduit dans les Bibles en grec par Pentecosta Hemera, ce qui veut dire le 50e jour, car elle se célèbre 50 jours après. C'est pour ça qu'on appelle ce jour la Pentecôte. Voilà un peu d'histoire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire ici, c'est que nous, chrétiens, nous avons une fête qui a un certain sens si nous comprenons ce qu'était la fête juive de la Pentecôte. Ainsi, nous avons transformé la Pessa, la Pâque juive, qui était pour les juifs, en la Pâque chrétienne, qui a lieu à cette même date, parce que à la Pessa, ils fêtaient le fait que les juifs ont été libérés de l'esclavage des Égyptiens. Et pour nous, nous fêtons à Pâques le fait que Jésus nous a délivrés de l'esclavage, non pas des Égyptiens, mais du péché. Et vous voyez ce parallèle merveilleux qu'avait prévu Dieu. Car Dieu, de toute éternité, a prévu ce plan que nous vivons aujourd'hui. C'était écrit du début de l'humanité. Et ce qu'il avait envoyé au peuple juif, ce sont les prémices du peuple. Car nous sommes devenus le peuple élu, mais tout ça avait été déjà annoncé au peuple juif. Alors justement, si nous comprenons un petit peu la Pentecôte, donc Shavuot pour les juifs, eh bien c'est une double fête. C'était à la fois la fête du début de la moisson et donc une fête des semailles, aussi appelée fête des semailles, mais c'était aussi, surtout, donc la fête de lorsque Dieu a donné la Torah au peuple juif sur le mont Sinaï. C'est là où Dieu a donné ses commandements et Dieu a gravé ses commandements au travers, sur les tables de la loi. C'est donc le passage de ce qui sont les commandements de Dieu et Dieu, à ce moment-là, les grave où ? Sur les tables de la loi, comme vous le savez. Et les Juifs vont conserver cette table de la loi précieusement dans le coffre de l'Alliance. Eh bien, le parallèle, c'est qu'à cette date, Dieu a un événement extraordinaire. Il va graver dans le cœur des chrétiens la loi de sa nouvelle alliance, ce qu'il avait essayé d'enseigner à ses disciples. Il le révèle et il le met dans le cœur des disciples le jour de la Pentecôte. Ainsi, de la même façon que la fête juive s'était gravée sur les tables de la loi de Dieu, Dieu l'a maintenant gravée dans le cœur des chrétiens par la nouvelle alliance. Et il nous demande à nous aussi de garder, non pas dans le coffre de l'alliance, mais dans nos cœurs, cette loi. Et c'est cela que tous les prophètes avaient annoncé, notamment le prophète Jérémie, plusieurs siècles auparavant, en Jérémie 31-33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Frères et sœurs, c'est cela l'événement incroyable que Dieu a fait dans nos vies. Il a gravé la loi de la nouvelle alliance dans nos cœurs, et ceci par le Saint-Esprit. Et il faut réaliser, c'est pour ça que j'aime beaucoup la fête de la Pentecôte. Pour moi, la fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'Église, c'est la fête des chrétiens. C'est, voilà, c'est pas ce matin, le Seigneur me dit, il faut venir en blanc. Je sais pas, ouais, peut-être faut aussi vous protéger la tête pour ne pas recevoir une langue de feu sur la tête. Mais peut-être nous accueillons ce que le Saint-Esprit va faire. Sommes-nous prêts à accepter ce que le Saint-Esprit va faire? Car il fait quelque chose d'assez incroyable. Mais revenons à la chronologie pour nous chrétiens. Il y a donc la Pâque. Jésus meurt et ressuscite. Et par cela, il obtient la pardon des péchés, donc la libération de l'esclavage du péché. Puis, il est pendant 40 jours avec les disciples, ressuscité avec eux, et il continue de leur donner des enseignements sur le royaume de Dieu. Et au bout de 40 jours, il remonte au ciel. C'est le jour de l'Ascension que nous avons fêté il y a quelque temps. Mais toutefois, ce jour de l'Ascension, comme on l'a dit, avant de partir, il fait cette recommandation en Luc 24, 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Et aucun des apôtres n'avait une idée quelconque de ce que pouvait être cette puissance qu'ils allaient recevoir, le Saint-Esprit. Et j'avoue que nous aussi, on ne comprend pas trop ces langues qui ressemblaient à des langues de feu. Notez qu'il ne dit pas que c'est des langues de feu, ça y ressemblait, qui vont faire tout trembler, qui font du bruit, une puissance. Ils ne savent pas, ils sont là. Les disciples vont donc retourner à Jérusalem, et là, pendant 10 jours, ils restent. Si on lit les versets précédents, ils sont plutôt en train de se tirer. Ils sont un peu cachés. 10 jours. Entre l'Ascension et la Pentecôte, où ils sont un peu perdus. Ils se réunissent là, mais ils ont sans doute peur de ce qui va se passer. Mais ce jour-là de la Pentecôte, ce jour de la fête de la Torah donnée au peuple élu, la Torah, la loi de Dieu, voici ce qu'il se passe. Il arriva le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble, soudain un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. À l'heure, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et ils s'en posant une sur chacun d'eux. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Et les gens disent, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Car ils étaient de toutes les nations. Le miracle véritable, c'est que chacun va entendre quoi? Les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Car la langue a été donnée à chacun des disciples pour que les gens les entendent. Et à ce moment-là, alors qu'ils étaient complètement perdus, qu'ils avaient écouté l'enseignement de Jésus, qu'il était mort, ressuscité, mais qu'il venait de monter au ciel, alors le don du Saint-Esprit transforme tout. Il transforme complètement la situation. Les disciples vont prendre la parole, ils vont prêcher l'Évangile. Mais selon ce magnifique verset de notre texte, ils vont raconter les merveilles de Dieu. Avant, pendant ces 3 ans, les disciples avaient suivi le maître qui enseignait, qui prêchait, qui proclamait. Le royaume de Dieu s'est approché. Ils étaient témoins des faits et gestes de Jésus. On voit bien que la plupart du temps, ils ne comprennent pas quand Jésus leur dit « Le royaume de Dieu s'est approché, je vais reconstruire le temple en 3 jours. » Ils ne comprennent pas. Est-ce que vous comprenez qu'ils ne comprennent pas? Jésus parle du royaume de Dieu, mais les disciples ne comprennent pas. Ils obéissent, ils se font baptiser. Mais il dit « Attendez, il s'en va au ciel, il le raconte encore pendant 40 jours. » Ils ont compris? Non, ils ne comprennent pas. Il parle encore, juste avant, du royaume d'Israël qui va se rétablir. ils n'ont pas compris le royaume de Dieu. Mais là, les choses changent. Ils se mettent à parler du royaume de Dieu aux gens après avoir reçu le Saint-Esprit. Ils vont prêcher, témoigner de l'Évangile en parole et en acte. En parole, en acte, ils vont accomplir aussi des miracles. Ils vont être près des gens. Le Saint-Esprit, c'est le moteur même de l'Église. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que sans Saint-Esprit, l'Église n'a aucun sens. C'est le moteur. Et quelqu'un nous raconte souvent que c'est une petite flamme dans la chaudière. C'est elle qui fait fonctionner. Mais est-ce qu'on veut réanimer la flamme? Oui, elle est là. Mais est-ce qu'on veut l'animer? Sans elle, l'Église, frères et sœurs, ne peut rien faire. Cette Église n'a pas de sens sans le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui donne le courage à Pierre. Le même Pierre qui a renié Jésus quelque temps avant, au moment de sa mort. Il va renier Jésus alors qu'il va renier ce même Pierre qui a peur des conséquences. Vous vous rendez compte qu'il se met à prêcher devant 3000 personnes de tous les peuples? Et si vous lisez ce fameux discours de Pierre, qu'en tant que prédicateur on aimerait reprendre, mais qui serait peu adapté tellement maintenant, il leur dit, ce Jésus, vous l'avez crucifié. Devant les 3000 juifs, là, il leur dit, c'est vous qui l'avez crucifié. Il était là, vous ne l'avez pas reconnu. Le courage de Pierre, on ne le reconnaît pas. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. À ce stade, il est essentiel aussi de se souvenir que les apôtres, les 12, ne sont absolument pas des gens éduqués théologiquement. Ils n'ont pas fait des études de théologie, ils n'ont pas étudié la Torah, ce n'est pas des savants. Je vous rappelle qu'ils sont pour la plupart des pêcheurs de poissons, des petites gens, peut-être un collecteur d'impôts, mais ils sont des petites gens. Or, ce sont eux qui reçoivent la parole et proclament l'Évangile. On voit que ce miracle du Saint-Esprit, véritablement, c'est l'audace qui est donnée aux disciples de parler. Et on le voit plus loin, je l'ai rajouté dans Actes 4, un peu plus loin, on voit la suite de ce qui se passe avec Pierre et Jean. Pierre et Jean vont faire un miracle, ils vont être arrêtés par le Sanhédrin en Actes 4. Voilà ce que disent les juifs, les maîtres de la loi en Actes 4, 13. À nouveau, ils vont prêcher l'Évangile devant ces hommes qui les accusent. Et voici ce qu'ils disent. « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Et plus loin, alors qu'ils sont libérés, qu'ils rentrent dans l'Église, on voit à nouveau l'action du Saint-Esprit dans l'Église, Actes 4, 31, c'est les disciples, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Alors, je ne sais plus si ça se produit aujourd'hui, mais à l'époque, ça se produit à nouveau, le lieu tremble à nouveau. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit alors qu'ils l'avaient reçu avant, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est donc aussi cet Esprit Saint qui va faire que 3000 personnes qui écoutent, venues de tous les pays, vont être convaincues de péché. On l'a lu tout à l'heure. C'est l'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le prédicateur. C'est l'Esprit Saint qui a cette action dans le cœur des hommes. Ils vont se convertir et demander le baptême immédiatement. Ils deviennent ainsi le premier rassemblement de chrétiens. Ecclésia, l'Église. Et chaque jour, Dieu ramène de nouvelles personnes. Ils vont être 5000. Il va rassembler. Mais ce qu'ils font, ces gens, c'est qu'ils racontent les merveilles de Dieu qu'ils viennent de découvrir. C'est merveilleux. Et vous, avez-vous découvert ces merveilles de Dieu? Les avez-vous connues dans votre cœur par le Saint-Esprit? Ils font ce que ce psaume annonçait depuis si longtemps. Mon âme bénit l'Éternel et raconte chacun de ses bienfaits. » Oui, frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est bien celui qui met l'Église en mouvement. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut rien. D'ailleurs, c'est bien l'avertissement que Jésus va donner dans le passage qu'on a lu, en fin de Luc, mais aussi en Matthieu, d'attendre la venue du Saint-Esprit. Et alors, Christ n'est plus celui qu'ils suivent, mais celui qu'ils annoncent. Désormais, Christ est devenu l'Évangile, et ce sont les disciples de Christ. C'est pour ça qu'on dit chrétiens, les petits Christ, qui prêchent le Christ, royaume de Dieu pour les hommes. Voici la vraie transformation du Saint-Esprit. Cette vraie transformation, elle est pour nous, parce que ce message de Jésus, s'il était pour les apôtres, qui sont des envoyés, elle est aussi pour nous qui sommes envoyés à cette mission dans le monde. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous qui a reçu Christ dans sa vie est appelé à témoigner des merveilles de Dieu. Faut-il avoir reçu le Saint-Esprit? Mais si on l'a reçu, c'est pour témoigner les merveilles de Dieu. Il ne s'agit pas tant d'enseigner son prochain, juste de raconter les merveilles d'un Dieu si grand. D'un Dieu si grand à qui rien n'est impossible. Comme l'a dit Hélène, par la foi, ce n'est pas donné aux théologiens, c'est donné à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Car Dieu, si nous avons accepté Jésus-Christ, nous a aussi donné le Saint-Esprit. C'est dit dans la parole. Nous avons reçu le Saint-Esprit si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voici ce que déclare Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Notons ces paroles. C'est toute la démarche de ce que nous faisons. Après avoir entendu la parole de vérité, c'est cette parole qui est donnée à chaque chrétien, l'évangile du salut. L'évangile du salut, c'est maintenant Christ qui est mort, ressuscité. En lui, vous avez cru. La condition, c'est d'avoir cru. Eh bien, si vous avez cru et vous l'avez accepté, vous êtes scellé par le Saint-Esprit qui a été promis. Ainsi, c'est lui et lui seul qui va te permettre de parler des merveilles de Dieu. Parce que c'est lui qui, dans ton cœur, va aussi te permettre de dire que Dieu est devenu ton Père. Et tu peux dire « Abba, Père, Abba, Papa » à ce Dieu qu'on craint. Tu peux dire maintenant « Abba, Papa, il est devenu ton Père. » N'est-ce pas incroyable, comme dit le chant? Qu'un tel Dieu, que Jésus soit devenu mon frère et que Dieu soit devenu mon Père. Frères et sœurs, simplement, c'est cela le message puissant mais invraisemblable de l'Évangile de Christ. C'est ce que dit Romains 8, 16. C'est l'Esprit qui est en nous. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est cela que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui t'a convaincu de péché, qui t'a convaincu que tu allais être jugé pour la vie éternelle, pour tes péchés passés, mais que Jésus est mort pour cela. Celui qui te dit que par la Pâque de Jésus, tu es sauvé. Celui-là même maintenant scelle le commandement d'amour dans ton cœur de la Pentecôte en disant que tu peux appeler ce Père, il t'a pardonné, il te prend dans ses bras et tu peux lui dire « Abba, Père, Papa ». pardon pour les péchés. Pardon, Seigneur, pour les péchés que j'ai faits, pour les péchés que je n'ai pas reconnus, pour le mal, pour tous les choix où j'ai eu honte de toi. Mais papa, tu me tends la main ce matin. C'est cela, accepter Jésus-Christ. Je ne te condamne pas. Viens, mon enfant. Viens, mon enfant. Je suis ton papa qui t'appelle. Je t'ai préparé une place. Je t'ai préparé une place, quelles que soient les difficultés que tu vis. Je t'ai préparé une place. Peut-être ta vie ne sera pas plus facile, mais ta vie, cette promesse-là, elle est scellée à l'éternité. Et tu peux dire merci, tu peux raconter les merveilles de Dieu, les merveilles de Dieu. Et c'est ça le Saint-Esprit, que nous louions ensemble les merveilles de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et compte chacun de ses bienfaits. De ce point de vue, on peut dire que la Pentecôte, c'est comme la fête de la prédication, parce que c'est la prédication de l'évangile confié aux disciples, aux chrétiens. Et une prédication, finalement, c'est une parole qui évangélise. Une parole qui prépare un cœur à la rencontre avec Jésus, suscitée par l'Esprit Saint. Alors certes, tout le monde n'est pas appelé dans l'Église à prêcher en chair. Tout le monde n'en a pas la vocation, l'aptitude et surtout l'appel, d'autant que Jacques nous dit et nous donne l'avertissement que nous ne devons pas être nombreux à enseigner la parole de peur. Mais cette prédication, la vraie prédication, elle n'est souvent pas dans l'Église ici, elle est dans des discussions dans les familles autour de la Bible. C'est là, dans le secret d'une chambre, dans le secret d'une maison, que se font les changements les plus décisifs. Ça peut être un enfant, un adolescent, un rebelle, un adulte, qui a déjà vécu une vie, mais tout d'un coup comprend la parole qu'on lui a expliquée et qui se révèle être soudain l'Évangile pour lui. On peut dire qu'il y a prédication chaque fois que l'Esprit Saint suscite une parole et une écoute dans le sujet, l'Évangile. Et souvent, nous n'en avons pas conscience, il nous faut juste marcher par l'Esprit et c'est après coup qu'on réalise que la parole donnée était celle du Saint, comme la prière de Jean-Pierre tout à l'heure. Je ne sais pas avant et après, comme je sais que c'est ce que j'allais dire, je dis merci Seigneur, c'est toi qui l'as guidé. Alors, oui, pour faire cela, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que sans lui, vous savez, on n'osera pas le faire ou on ne pourra pas. Alors, chaque fois que nous parlons des merveilles de Dieu, nous accomplissons la véritable mission, la seule véritable mission de l'Église. En ce jour de Pentecôte, plus que tous, désirons marcher par le Saint-Esprit. Non pas par l'intelligence des hommes. Voyez ces hommes qui ne connaissent rien à la Bible, transformés par la foi. En résumé, ce matin de ce texte, je veux retenir et nous partager que la vraie manifestation du Saint-Esprit, alors les gens voient la puissance, voient le... Non, la vraie manifestation, c'est une Église qui se met en mouvement pour raconter les merveilles de Dieu. Parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Parce que votre cœur, par le Saint-Esprit, déborde de dire « Merci, papa, pour ce que tu as fait pour moi. » Et les autres peuvent dire « Waouh, je vois cette vie transformée. Je vois cette vie différente. Je vois qu'il veut marcher différemment de tous les autres. » Alors, peut-être tu n'as pas encore reçu ce baptême qu'a promis Jésus, car Jésus promet le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême du Saint-Esprit qu'il promet, c'est l'acceptation de lui comme Seigneur et Sauveur, et à ce moment-là, il te scelle par le Saint-Esprit. Alors, si tu ne l'as pas reçu, tu ne peux pas. Tu peux chercher, mais tu ne peux pas encore raconter les merveilles de Dieu. Eh bien, moi, je veux te raconter les merveilles que Dieu a fait pour moi. Parce que je ne serais pas là si Dieu n'avait pas fait tant de merveilles dans ma vie, s'il n'avait pas transformé ma vie. Et je veux te dire qu'il a un plan merveilleux pour toi. Je veux te dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit ce matin à venir dans ses rangs, à venir écouter. Et même si tu ne le sais pas encore, je vais te dire que sa parole est sûre. Si tu te repens sincèrement devant lui de tes péchés passés, si tu crois dans ton cœur qu'il t'a donné sa vie à la croix, je t'invite à prendre ce cadeau gratuit maintenant en fermant les yeux dans ton cœur. Ce cadeau gratuit qu'il a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Peut-être tu prieras dans ta chambre ce soir, mais ce cadeau, il l'a fait pour te donner cette vie, pour effacer cette vie passée, et il va te mettre en nouveauté de vie, mais par le Saint-Esprit. C'est cela le baptême du Saint-Esprit, c'est une conversion. Oui. Accepter, c'est ça qui veut dire tu peux naître de nouveau. Et si tu ne sais pas quel est le chemin, viens nous voir, tu peux prier avec nous à la fin. Et nous pourrons prier pour que Dieu quitte toute chose, car c'est lui et lui seul qui ouvre les cœurs. Et si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, et pour certains, peut-être depuis plusieurs dizaines d'années, et que tu as laissé un peu la flamme de la chaudière s'éteindre, prie maintenant que le Saint-Esprit ravive cette flamme qui est en toi, comme on l'a prié. Oui, cette flamme que tu as manifestée à ce moment-là où tu l'as acceptée dans ton cœur, peut-être tu ne savais pas tout, après que tu te sois baptisé et tu t'es engagé par les eaux du baptême à le suivre. Eh bien, ravive cette flamme. Cette Pentecôte d'aujourd'hui, elle est pour toi. Elle est juste pour qu'on soit dans la joie, frères et sœurs. La joie de raconter les merveilles de Dieu. La raconter aux autres, que nos enfants, nos familles, nos parents voient malgré nos souffrances les merveilles du Dieu qui nous a sauvés. Oui, et que chacun l'entende dans sa propre langue jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu remplisse son église ce matin de son Saint-Esprit, et juste simplement, peut-être ce n'est pas des langues de feu, mais qu'il ravive cette flamme. À lui soit toute la gloire, qui est assis au siècle des siècles et qui reviendra pour que nous vivions la vie éternelle avec lui. Amen. À lui soit la gloire.